Extreme music for extreme people.
Salut, c'est Elliot
et Mister Z.
On est ravis de vous retrouver pour la troisième ou quatrième, la troisième saison. Troisième saison d'Extreme Music for Extreme People. On est hors les murs et cette fois, c'est pas pour le péché capital Day, c'est pour le Metal Summer Fest, deuxième édition, à la Tour en Jarret.
Et dans la Loire,
c'est Stéphanois ici. Et du coup, on a en face de nous le groupe La Salle des Pendus. Le premier groupe à ouvrir donc le fest. Alors La Salle des Pendus, c'est une sorte de vestiaire hein, dans une mine. Si vous passez à Saint-Étienne, je vous invite fortement à visiter ce patrimoine de l'industrie du charbon stéphanois et vous comprendrez ce que ça veut dire La Salle des Pendus. Mais La Salle des Pendus, c'est aussi un groupe de métal, du métal chapelier fou. J'invente rien, c'est écrit sur votre Facebook, les gars. Messieurs, je vous invite à vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices.
Bonjour, Romain, chanteur. Maxime, batteur.
Patrice, bassiste.
Bonsoir. Ulrich, guitariste.
Alors messieurs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la genèse du groupe, votre rencontre? Et puis La Salle des Pendus, ça doit vouloir dire aussi peut-être autre chose. C'est quoi votre... Il y a un concept derrière tout ça.
Et puis, qui est Gabin Charles Furcy?
Alors... Bon, comment a commencé La Salle des Pendus? Alors déjà, la salle des pendus a commencé en n'étant pas La Salle des Pendus, puisque au départ, nous appelions Grim Call Factory. Il faut quand même savoir, c'est quand même dans la genèse du groupe. On faisait un petit... C'était pas tout à fait ce qu'on fait actuellement, mais surtout, on s'est dit qu'au bout d'un moment, le nom anglais, alors que tous nos textes sont en français, et qu'on essaye quand même de promouvoir la langue française, avec le peu d'armes qu'on a, mais on essaie quand même, on s'est dit qu'il valait mieux un nom français... Étant de Saint-Étienne, quoi de mieux que La Salle des Pendus, qui était tout trouvé. Voilà. Alors Gabin Charles Furcy, de son petit prénom et de son nom de famille, c'est en fait que dans les textes, on essaye de parler un petit peu d'histoire. Et lui, si vous avez vu le concert tout à l'heure, il était sur scène avec nous, il est devant, il est mort. Voilà. C'est quelqu'un qui est mort. Bon, après, ça viendra dans d'autres chansons. On a commencé à l'introduire, et puis, sans mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Et voilà, ça vient dans les textes, en fait. Voilà.
D'accord. Du coup, Gabin Charles Furcy, c'est la contraction de Grim Call Factory, qui était l'ancien groupe. Hein. Voilà, c'est un peu... Et il est censé avoir, enfin on va pas raconter l'histoire, mais il a un lien direct avec la plus grosse catastrophe qu'il y a eu dans les mines de Saint-Étienne. Hein. Le coup de grisou le plus meurtrier. Hein. Donc on dit rien, mais voilà, il a un lien là-dessus, dans notre histoire un peu farfelue. Quoi.
D'accord, ok, donc c'est un gars qui à l'origine du... D'accord, ok. Et du coup, comment ça vous est venu cette histoire de concept en fait? Parce que c'est un groupe qui est autour d'un concept. C'est venu naturellement? C'était une discussion autour de votre rencontre? Ou c'est vraiment...
Alors c'est venu d'une chanson. Au départ, une chanson qui s'appelle L'Arme au Poing. Au départ, dans la chanson, elle est très théâtralisée déjà. Dans le texte, encore plus. Puisqu'il y a des passages, je joue au mégaphone comme si j'intervenais auprès des gens. Et donc l'idée numéro une qui nous est venue, comme c'était déjà un univers un peu sombre, c'était le costume queue de pie, chapeau, la canne. On est parti comme ça au départ. Une fois, je l'ai fait au départ, j'ai acheté tout le matériel. On s'est entraîné en répète pour voir ce que ça donnait. Ça nous a tous plu. Et pour le premier concert donc, au Thunderbird à l'époque, ils ont tous fait leur costume dans la foulée, et puis maintenant on est allé à fond dans ce délire, et surtout même dans les textes on continue à entretenir ce délire entre guillemets. Voilà.
Et comment vous vous êtes rencontrés? Comment il est né ce groupe?
Est-ce que tu connais le fucking Blue Boy?
Ça là ne nous regarde pas.
Bon.
J'ai mal.
Alors, la rencontre, donc, historique, c'est plutôt Patrice et Ulrich qui se connaissent depuis une bonne vingtaine d'années, que je dise pas de bêtises. Ulrich, Patrice et moi ensuite, on s'est rencontrés pour les études un petit peu plus tard, il y a 10-15 ans, je me rappelle plus. Voilà, donc on a commencé à jouer entre copains tout simplement, et puis après on a eu envie de faire autre chose, de faire un groupe. On n'avait pas de batteur quand on a attaqué, on a eu la chance de trouver Maxime, qui est rentré dans le groupe. Il était en études sur Saint-Etienne, donc c'était nickel. Donc ça fait un an et demi, malheureusement il doit partir, donc on va faire un petit appel au micro. Si jamais un batteur sur la région stéphanoise, voire lyonnaise, veut intégrer le groupe, ça sera avec un grand plaisir. Voilà.
Ok, alors il ne va pas falloir seulement qu'il sache jouer de la batterie, parce que tout est théâtralisé. C'est-à-dire qu'il y a une trame, ça c'est important de le dire quand même, parce que non seulement il y a un concept autour du thème des chansons, mais tout est théâtralisé, et vous êtes aussi grimé. Aspect fin 19e quoi. Donc je vous laisse le soin d'expliquer ça à nos auditeurs et auditrices.
Je pense que comme Romain l'a dit, moi j'ai intégré le groupe plus tard, et ce qui m'a vraiment plu c'était ce côté là c'est qu'il y avait vraiment le côté historique, le côté on fait de la musique, on fait du métal, donc de la musique qu'on aime, mais à côté on se fait plaisir, c'est à dire qu'on se déguise, on joue chacun un personnage, hein, chacun un peu dans l'univers de ce groupe. Il y a tout un univers, un pays, une ville qui est retranscrit dans les textes. Et chacun joue un personnage et ses textes tournent autour de ce personnage en fait, et des liens qu'ils ont entre eux, donc dans une mine, entre la grande corporation qui détient les mines, les différents. Moi par exemple, en tant que mineur un peu, c'est pour ça que j'ai choisi ce déguisement, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai intégré ce groupe. Voilà.
En fait, déjà, ça je l'ai pas dit, mais le contexte global le contexte global des chansons. Déjà, on n'est pas en France, on est dans l'Empire Logien, voilà. Donc ça, à Saint-Nathans, et on fait tous partie, de la société des houillères de Saint-Nathans, voilà. Alors, j'ai rien inventé. Quand on reprend les lettres, on retrouve un peu Saint-Étienne à certains endroits. Enfin, il y a des petites astuces comme ça. Moi, j'aime bien garder quand même notre côté. Du cru stéphanois, voilà.
Et puis des personnages, hein, des affrontements entre Messire Courtois, Eustache Néplat, Karl Souvarine. Enfin voilà, c'est vraiment.
Vous êtes les Zola du métal.
Par exemple, le nom de mon personnage Souvarine est directement tiré de Germinal. Souvarine étant l'anarchiste qui détruit la mine en fait à la fin du récit.
Ok. Donc voilà, à aller les voir en concert, parce que très franchement, ça vaut le coup d'œil. Nous, malheureusement, on vous a raté, parce qu'on était en interview, machin, tout ça. On a vu la fin.
Les deux derniers titres, ouais.
On a vu les deux derniers titres. Et il y a vraiment un truc, c'est vraiment super intéressant, et c'est pas banal, quoi. On voit pas ça tout le temps, voire même jamais.
Alors en fait, ce qu'il y a de rigolo, c'est que c'est assez fun sur scène. Mais votre ça c'est à l'opposé des textes et du monde que vous dépeignez, quoi.
C'est vrai. Non mais en fait j'étais en train de chercher, mais c'est vrai que les textes sont pas hyper les textes sont peut-être pas hyper hyper drôles, ça c'est sûr et certain. Et donc oui, on est quand même là pour essayer de faire plaisir un maximum au public, c'est ce qu'on essaye de se faire plaisir également. On est quand même pas, faut pas l'oublier.
Oui.
Ok, du coup, est-ce que vous avez une actu là ? Parce que moi, j'ai regardé un petit peu. Pour l'instant, vous n'avez pas de EP ou de choses comme ça qui sont sorties. Est-ce que ça, c'est en cours ? Est-ce que vous avez dans l'idée de le faire ? Ou est-ce qu'on peut vous voir exclusivement en live ? Ce que je conseille à tout le monde, encore une fois.
Effectivement, il y a une démo, oui, qu'on peut écouter. Mais bon, c'est un truc qu'on a fait rapidement. Pour pouvoir se promouvoir auprès des bars ou pour pouvoir trouver des dates. On va essayer effectivement de faire un petit truc un peu mieux, un peu plus construit, un peu plus propre, avec un son mieux, quoi. Mais on n'a pas pas spécialement de EP.
En cours à creuser en tout cas. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à nos chers auditeurs ? Je vous laisse le mot de la fin et vous allez devoir choisir un titre. Je pense que c'est pas facile, mais vous allez devoir choisir un de vos titres et parce qu'on va le, on va le diffuser.
Le mot de la fin, ça c'est pas facile.
Chapeau.
T'es sûr?
Fucking ouais. Blue Boy en amont.
Non, chapeau, c'est pas mal. Allez, chapeau. Et donc, le titre, alors ça aurait dû être le chant du cygne, c'est parti.
On est maintenant avec Scorncrows, qui a été fondé en 2016 par les frères Uzi et Kaiser. Uzi étant le lead guitar et Kaiser à la rythmique, vite rejoint par leur pote Jesus au chant et à la basse, et Pedro à la batterie. Ils sont lyonnais, mais pas que. J'ai cru comprendre. Et motivés par des expériences respectives, ils ont formé le groupe pour retrouver le studio et la scène. On vient de les voir.
Il m'avait pas menti, ça botte des culs.
Exactement, c'est ce qu'il y a écrit sur leur Facebook. Ils sont là, motivés comme jamais pour péter des culs. Messieurs, le décor est planté. Je vous laisse le soin de décrire un peu votre musique avec des mots cette fois et donner l'envie aux chers auditeurs et auditrices d'attiser leur désir d'écoute, parce qu'il y a beaucoup d'influence dans ça.
Un melting pot musical.
Ça va de Motorhead à Machinehead à voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses.
Pour l'idée du groupe, ouais, c'est moi qui suis revenu vers mon frère début 2016, fin 2016, pardon. Et Pedro et moi, on vient du death. En fait, à la base, on faisait du death il y a très longtemps. Moi, j'étais batteur, et lui aussi, toujours batteur. Et je voulais refaire de la musique, mais je voulais faire un style plus simple, efficace, on va dire. Et avec mon frère, on s'était branché à l'époque sur Pantera. Et pourtant, c'est une des influences qui revient jamais. On nous dit souvent Machinehead et Motorhead, que j'aime beaucoup aussi. Et du coup, voilà, j'avais des projets pour jouer sur Lyon avec Ginjo à l'époque, donc je l'ai rappelé. Et après, il y a Pedro qui nous a rejoint pas longtemps après. Et chacun, je saurais pas vous dire vraiment, on s'est jamais dit, ouais, on aime bien Motorhead, on aime bien Machinehead. C'est pas spécialement les groupes qu'on écoute le plus d'ailleurs, nous. Mais on essaye de trouver à chaque fois, il y a un riff. En fait, quand on compose, souvent c'est quelqu'un amène un riff ou plusieurs riffs. Et on va les changer tous les quatre. Jusqu'à qu'on trouve un truc, en fait, qui groove. C'est pour ça qu'on a pas vraiment trouvé un style, c'est juste qu'on aime bien que ça fasse bouger les têtes, en fait. Donc voilà, mais ouais, Machinehead, Motorhead, ça revient souvent, mais c'est ça, ouais, c'est du 4-4 efficace, quoi, en gros.
Rezou, c'était au chant, c'est toi qui es à la base des textes. D'accord. Ok. Du coup, tu t'adaptes comment par rapport à ces textes, toi? Tu plaques ta mélodie une fois que la musique est faite, ou tu viens quand même, tu intègres les textes et tu viens avec un truc, quelque chose, et vous mettez la musique autour?
Alors c'est un process un peu long et fastidieux, on va dire. On commence par faire une version instru avec toutes les parties. Alors on dit ici ce sera plus calme, on fait un truc ambiant, on fait un truc plus lourd. Et je commence à poser une mélodie, à poser un chant. Et une fois qu'on a enregistré la base, donc une ligne directrice du chant, Kaiser écrit les premiers textes. Donc il cherche un thème, etc. Il écrit, je récupère les paroles, j'essaie de voir comment ça se pose avec ce que moi j'ai fait, et on fait des petites modifications, puis on voit avec tout le monde si le thème de la chanson, on veut que ce soit quelque chose. La dernière en date étant The Dude, par exemple, qui n'est pas sur le CD, c'est quelque chose qui a été fait comme ça. On a dit, on aimerait bien que ce soit une chanson qui parle de ça, d'un mec dans le désert, parce qu'on aime bien, ça fait ambiance stoner, la chanson... Donc fais-nous quelque chose comme ça, il l'a sorti, on a fait des allers-retours et c'est tombé sur ça. Donc c'est ça le process pour créer le chant.
En tout cas, ça fait un beau melting pot musical et ça dépote en tout cas en concert.
Oui, tout à fait, ouais.
Et du coup, vous êtes en autoprod, donc tu viens parler de l'album là que vous venez de boucler, qui est libre sur Bandcamp, après libre aux auditeurs de laisser... une obole, comme tu dis, Mister Z. Du coup, en autoprod, c'est quoi les difficultés et les facilités d'être en autoprod?
Du coup, c'est moi qui me suis un peu chargé de l'autoprod. Je voulais faire ça avec mon ancien groupe, on a un peu splitté, c'était un peu la galère. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, le studio, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps, on a tous des tafs à côté qui nous prennent beaucoup de temps. Donc on s'est dit on va faire l'autoprod, mais le truc c'est que ça prend beaucoup de temps, ça a duré à peu près un an quoi, quasiment. On a tout enregistré bout à bout, c'était très long, et c'était dans mon appart, donc quand ils gueulaient les voisins, autant me dire que c'était pas terrible. Donc on a fait ça chez moi, on a acheté des logiciels qu'il fallait, on a acheté un peu de matos, on s'est motivé, et puis on a un peu appris sur le tas. Donc il y a plein de petites couilles dans l'album qui sont... on pourra pas les effacer, elles sont comme ça. C'est le début quoi, c'est normal. Et puis du coup ce qu'on voulait, c'est quand même sonner un peu professionnel, donc on a envoyé le mastering après à Thibaut Bernard, qui lui il n'y a pas besoin de le présenter, c'est un ingé son de qualité extrême sur Lyon, et je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc il nous a fait un bon travail, on est plutôt satisfait. Et puis il nous a un peu aidé sur le mix, justement, il nous a conseillé aussi sur le mix par rapport à ça. Donc ça a été long, assez fastidieux, mais c'était assez intéressant. On a appris plein de choses finalement, et puis on aimerait bien passer au studio la prochaine fois, parce que mine de rien, c'est très coûteux en investissement.
Ok, donc du coup, vous êtes principalement là, votre scud vient de sortir, vous êtes principalement à la recherche de concerts. Donc on fait un appel, hein, si vous voulez faire jouer Scandcrow, ils sont ouverts. Du coup, vous avez des difficultés un peu à trouver des dates où ça se fait et il y a des projections là prochainement de dates ou sans les citer parce que bon, on sait pas trop. Je mettrai ça en lien sur notre Facebook, mais du coup, vu qu'on, je sais pas trop quand l'émission sera diffusée.
Ouais. Alors les concerts, c'est un peu aléatoire. Je sais qu'on est rentré au début, on est rentré chez 100% Underground l'été dernier. Donc l'assaut du coin là du 42 avec Frédéric. Donc lui nous a trouvé notre premier concert, c'était le 6 octobre. 6 octobre de l'année dernière. Et après ça en fait sur un coup de chance, enfin un coup de chance. Entre guillemets, il y a un groupe qui s'est déprogrammé au blog. On a trouvé du coup un concert. Après, on avait réservé le Brin de Zinc un an avant, parce que c'est très long, c'est une salle vers Chambéry qui est assez réputée pour le métal. Du coup, dans cette zone-là, on a eu pas mal de trucs. Et pendant le concert du bloc, Fred nous annonçait qu'il nous avait trouvé une première partie pour Falsy, un groupe russe qui passait au Rock and Eat. Donc, on va dire que dans cette période-là, ça s'est assez bien enchaîné. Et après, on a eu une petite période de creux entre. Donc, c'était le dernier, c'était 29 mars. On a eu un concert qui s'est annulé en juin à cause du Hellfest. Enfin, ils pensaient qu'il y aurait pas assez de monde, du coup, ça a été annulé. Et on allait jouer à Strasbourg, c'était un peu un traquenard, quoi. Il y avait un peu personne, on a fait 500 bandes pour rien. Du coup, voilà. Et ça nous a permis de nous concentrer finalement. On s'est dit, on va mettre un grand coup de collier et finir ce putain d'album. Donc cet été, en fait, on a fait quasiment que ça. Depuis fin mars, on est vachement là-dessus. Et vraiment, vraiment sur juin, juillet, avec mon frère, on a vraiment bourré sur les grattes et Jinjo, dès qu'il pouvait être là, sur le chant et la basse. Pour pouvoir filer le master. Il est sur Strasbourg, ouais, lui. Et du coup, voilà. Et là, c'est quoi? Il y a peut-être fin juillet, courant août. On a une. La chanteuse de Camille Zolka, qui nous a trouvé, en fait, je crois, trois dates qui vont arriver, bah, du coup, là, en octobre. Et on en a une aussi qui arrive en janvier, donc 2019. Et peut-être une autre courant février, ça faut qu'on confirme, parce qu'on devait jouer au Thunder, mais le Thunder a fermé. Donc on va regarder s'il y a un plan de backup. Mais enfin, il a pas fermé, ils peuvent plus faire de concert. Le bar est toujours ouvert. Mais du coup, voilà, pour l'instant, ouais, on a de quoi faire jusqu'à la fin de l'année, on va dire. Voilà. Ouais. Du coup, voilà quoi.
Je reviens un petit peu à vos textes. Est-ce que tu as des thèmes de prédilection? Est-ce qu'il y a des, parce que du coup, vous partez pas, enfin, c'est pas un groupe autour d'un concept. Là, on vient de voir la salle des pendus, il y a vraiment un univers, machin et tout. Du coup, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu.
Ouais. Eh ben, c'est forcément. Ouais, du coup, je sais pas si vous avez vu sur l'image de fond, même sur le Facebook, il y a pas mal de dessins, en fait, que je fais aussi. Et qui sont, c'est un peu le délire, c'est un concept gentil. C'est qu'on est les quatre crows, donc je nous ai dessiné un perso un peu la Gorillaz en fait. J'ai fait un perso stylisé un peu pour chaque membre du groupe, où on a plus ou moins une histoire. C'était un peu inspiré des quatre chevaliers de l'Apocalypse. C'est un peu l'idée, c'est que on critique vachement. C'est pas très original, hein, mais on critique vachement l'être humain moderne en fait, la surpopulation, le gâchis, toutes ces choses. Un peu dans les thèmes de Gojira, peut-être moins écolo, mais plus dans la critique. Et c'était un peu l'idée, quoi. On est les quatre corbeaux, en fait, qui sont là au jugement dernier pour dire, bah, c'est bien fait, quoi. Vous allez crever, c'est bien fait. Alors après, je fais pas mal de clins d'œil. On en parlait de The Dude, c'est un clin d'œil à Big Lebowski. Il y a Rock'n'Rolla, le film de Guy Ritchie aussi. Goodfellas, bah, le très très célèbre film de, c'est Les Affranchis en français, je crois. Je me souviens plus comment il s'appelle. Scorsese, exactement. Du coup, voilà, j'aime bien faire des petites références aussi au film pour parler d'une histoire à côté. Alors ouais, il y a des thèmes, ça vient. Goodfellas, c'est, je regardais, je crois, les Lyonnais sur les gangs de Lyon, c'est un film français là avec, j'oublie tous les noms. Gérard Lanvin qui reparle des gangs des Lyonnais. C'était quoi, les années 70, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un truc sur les gangs. Donc j'ai pris Goodfellas et c'est juste l'histoire de mecs qui braquent des banques sur les codes d'honneur, etc. Qui avait quand même, en fait, c'est des mecs hyper violents, mais qui gardent des codes d'honneur assez stricts, ce que je trouve toujours assez marrant, l'espèce de schizophrénie de, ils ont une croix de Dieu, mais la journée, ils vont tuer des gens. Enfin, c'est des trucs délire. Ouais, Empire of Mediocrity, c'est beaucoup sur le 21e siècle où finalement l'homme pense qu'il a tout maîtrisé, alors que pas du tout. On voit, hein, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, tout le monde crève. T'as beau avoir une télé et un gros 4x4, tu vas dégager comme tout le monde. Donc ouais, c'est un peu les thèmes. C'est un peu les thèmes qui reviennent beaucoup, on va dire le plus, c'est vraiment la critique, on va dire occidentale, quoi.
C'est pas compliqué pour toi de t'approprier un texte que t'as pas écrit ?
Ouais, c'est pour ça qu'on le retravaille aussi, mais généralement non. Généralement, je dirais pas que je m'en fous parce que c'est, il faut que j'adhère à ce qui est écrit, mais si ça parle de des gangs ou de n'importe quoi, enfin. Je sais que moi, mon objectif, c'est que ce soit bien musicalement, que ça gueule et que je puisse poser ma voix. Après, tant que je suis d'accord sur le principe, on est d'accord. De toute façon, c'est retravaillé à chaque fois. Enfin, même les, il y a par exemple Beyond the Limit, qui est celle qui parle de du thème de nous quatre, donc des cavaliers en gros et des corbeaux. Où là, vu que on a écrit un peu l'or ensemble, il faut qu'on soit tous d'accord sur ça, et il y a certaines chansons où on s'investit un peu plus, et il y a des gens qui s'investissent un peu moins, et qui on leur parle, et on leur dit ça, on propose ça, est-ce que t'es d'accord, et leur objectif c'est juste de poser le son et de bouger la tête, donc nous ça nous va, enfin, on a tous nos implications plus ou moins fortes dans le groupe, et puis voilà, donc au final, non. Il y a des chansons où je m'implique un peu plus, où je dirige, mais sinon, ça va.
C'est plus un avis sur la musique. Enfin, sur les paroles, j'aime bien. Je faisais, en fait, dans tous mes groupes, j'ai jamais chanté, mais j'ai toujours écrit les paroles. J'aime bien, en fait, c'est un peu un truc. J'aime bien savoir ce que mon groupe va dire, en fait. Donc, je fais quand même en sorte que tout le monde soit d'accord. Il y a deux, trois fois, d'ailleurs, je me suis pris des réflexions sur. Ouais, ça, c'est un peu borderline, c'est un peu pourri, c'est un peu cliché. Mais dans l'ensemble, en fait, comme on est à peu près tous dans le même délire, je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien, que ce soit sur le côté musical et l'état d'esprit en dehors, parce qu'on se voit aussi en dehors de la musique. On n'a jamais eu trop de problèmes sur les thèmes, quoi. Généralement, il me fait une ligne, je fais du chant, on est assez d'accord, et je fais en sorte. J'essaye. Alors en français, j'ai moins de mal parce que j'écris pas mal en français. À côté de ça, mais en anglais, de faire rimer, sur, que ce soit un peu poétique, quoi. Donc voilà, quoi.
Après. Pour moi, l'objectif, c'est que c'est mieux que quelqu'un écrive les textes s'il a quelque chose à dire. Et moi, personnellement, j'ai rien à exprimer à l'extérieur du groupe. Donc, je sais que y a des gens, dont Kaiser, qui aiment écrire leurs choses et s'exprimer et critiquer, par exemple, des choses comme ça. Et il mettra plus d'engouement là-dedans que moi, je le mettrai. Donc, c'est pour ça aussi que les paroles auront plus de sens et ce sera plus travaillé vu qu'il aime plus écrire et faire des choses. Même si on peut tous écrire à côté des bouquins ou des trucs comme ça, mais sur le champ, c'est lui qui gère le truc.
Ok, de l'équilibre et de la concertation, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous avez trouvé votre truc. Ok, c'est la balance du groupe, quoi. Du coup, c'est très bien. On va écouter ce que ça donne. Je vous laisse le mot de la fin, messieurs. Chacun a droit à son mot de la fin, comme vous voulez. Et puis vous envoyez un morceau. C'est vrai que vous n'êtes pas concertés. Et puis, puis voilà.
Eh ben déjà merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous interviewer. Et puis bah tous ceux qui vont écouter, n'hésitez pas, hein, comme on vous a dit au début, l'album est dispo, il est gratos, donc faites-vous plaisir. Nous on attend que ça, quoi. Voilà.
Oui, comme disait Kaiser, c'est vrai qu'on a quand même un besoin de tourner, on a une grosse volonté. Et c'est vrai que ça se fait pas tout seul, on a besoin de beaucoup de gens, des gens comme vous qui nous faites des interviews, bah ça nous aide vraiment à nous faire connaître, voilà. Et donc on a bien besoin, c'est vrai que la communauté métal marche un peu comme ça, et donc n'hésitez pas si vous avez des concerts ou d'autres choses. Allez écouter l'album si ça vous plaît, faites-vous plaisir, nous on est à fond, on est à 100%.
100%, 100% mon zombie. N'oubliez pas de cramer l'humanité, tout ça, j'ai pas grand chose à dire. Donc Uzi, si tu as des choses, dis-nous le mot de la fin. Parle-nous de Titou et de Jamenos.
Ouais, bah merci, ouais, à l'interview. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, etc. Achetez l'album. Et ouais, si vous avez des plans pour les concerts, c'est cool. Non, il est gratos, j'avoue. Et puis, venez nous voir en concert. On essaie de tourner pas mal sur la Jean-Ronalp. Mais après, s'il faut bouger, on peut bouger. On peut aller... en France, à l'étranger, n'importe où, il n'y a pas de problème. Nous, on est chaud, donc voilà. N'hésitez pas à nous contacter, on est toujours là. Merci à vous, merci à tout le monde. Du coup, bah, vous allez écouter Empire of Mediocrity de Scant Crows. Attaché aux ceintures, ça a pété des culs.
Let's not breathe on the biggest flame.
Troisième groupe du Metal Fest Summer Rock 2ème édition, du Metal Stoner, j'ai nommé Stoneheart. Fred Sickness au chant, Pepe solo guitare, Pipoff à la rythmique guitare, Ninka à la basse et Thomas à la batterie et puis au chant aussi. Ils existent et jouent ensemble depuis septembre 2017. Ce qui est récent, messieurs, comment s'est passée votre rencontre et l'élaboration du projet ? Comment vous êtes rencontrés ? Vous êtes une bande de potes ? Comment ça s'est passé un peu ?
Alors, on s'est rencontrés un jour de beuverie où je travaillais. Ils sont venus me voir là où je bossais dans un bowling, en fait. Et on a commencé à discuter parce que monsieur est venu avec ses enfants pour faire du bowling. On a commencé à discuter métal parce que j'avais un t-shirt métal. Voilà. Et après, on s'est revus au Silac où on a commencé à 3h du matin en étant sous... à faire un Nothing Else Matters façon Motorhead. Et ils étaient couchés. Les anciens étaient couchés, parce qu'il faut dire quand même qu'ils ont la cinquantaine, hein, ces messieurs. Et ils se sont relevés, et deux jours après, ils sont venus me voir en me disant on aimerait bien que tu viennes pousser la voix avec Tom à la base. Et donc voilà, j'ai intégré le groupe comme ça. Tom, du coup, est passé à la batterie. Et on avait Pipoff, que tu as cité, qui ne fait malheureusement plus partie de Stoneheart maintenant, mais qui a composé, qui a écrit surtout les paroles de Never. C'est une chanson hommage à son frère qui est décédé au Bataclan, quand Angel of Death Metal, Eagles of Death Metal d'ailleurs, si à chaque fois je me trompe, sont passés. Et donc voilà, donc c'est une chanson qui est hommageresque, on va dire, à... pour Pipoff, et du coup ça nous tient à cœur de la faire à chaque fois, et c'est vraiment une chanson qui a été posée à la base par Meet the Depth, le premier groupe de Jérôme, Pépé et Thomas, et on a repris ce riff en incluant les paroles de Never dessus, et voilà, et c'est devenu un des morceaux phares de Stoneheart.
Moi, je suis très curieux de... Ça donnait quoi, là, cette chanson ? C'était Nothing Else Matters de Metallica façon Motorhead ? Moi, je serais très curieux d'entendre ça.
Viens au Silac.
Je t'invite à venir au Silac.
Ça marche. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Du coup, est-ce que vous avez un esprit de groupe, un concept, ou est-ce que c'est seulement des gens qui ont des affinités et qui jouent et qui aiment jouer ensemble?
Affinité, ouais. Affinité, sûrement. Ce qui est important, c'est vraiment notre relation qui est très proche, très sincère. Et nos influences qui sont complètement diverses. Après, de mon vieil âge, comme dit mon ami, effectivement, on a parcouru plein de styles depuis les années 80. Et même dans d'autres styles plutôt rock, et c'est vrai que notre musique, on le ressent, c'est qu'on a des influences qui sont complètement diverses, et c'est le gros problème, c'est d'essayer de mettre une étiquette sur notre musique, parce que nous on en a rien à foutre d'une étiquette particulière, même si on se dit plutôt moderne metal. On a vraiment des influences diverses, on prend tout ce qui est bon, et Dieu sait qu'aujourd'hui, depuis les années 80, le métal a énormément évolué, avec des styles et des sous-catégories qui viennent se greffer, et on arrive à trouver des styles complètement différents, et nous c'est un petit peu ce mélange de tous ces styles, en tout cas de toutes ces influences qui nous font vraiment vibrer. On se pose pas la question quand on est en répète, voilà, c'est vraiment c'est les tripes qui parlent, et avec justement une musique et des voix très 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 prenantes.
Ouais, comme disait Jay, le but c'est d'abord avant tout de se faire plaisir. On n'a pas vraiment d'étiquette, quoi, mais c'est avant tout se faire plaisir, quoi. Donc on cherche pas à entrer dans un style ou dans un autre, ça nous tape dans la gueule, et puis on continue, quoi. Voilà. Bon, il veut que je le dise, alors on fait du Stoneheart, même si, bon, voilà.
Est-ce que c'est pas compliqué, justement, quand on a plein d'influences comme ça, d'en faire, de les regrouper, d'en faire quelque chose de cohérent, de pas partir un peu dans tous les sens ?
Partir dans tous les sens, non, ça va. En fait, quand on compose, là, on part dans tous les sens, peut-être, ouais, effectivement. Mais après, on structure et on arrive à trouver des choses qui plaisent à tout le monde, ouais. Et du coup, moi, ça me plaît. Je pense que ça leur plaît aussi, ouais. Non.
Moi, je pense qu'on a à la base une dans les compos, c'est vraiment une compo très très rock en fait dans la conception des morceaux. On est loin des archétypes du métal au niveau des structures et on arrive à créer justement de par les ambiances à faire ressortir une ambiance qui reste peut-être assez rock à la base et avec une couche très métal à la fois dans les sons, dans les coupures parce qu'on est bien branché thrash, hardcore, deathcore, metalcore, donc c'est des styles complètement différents, mais c'est vraiment un mélange et du coup ces couches que l'on rajoute dessus sur une base assez rock dans les accords, on a vraiment quelque chose d'assez nouveau et en tout cas très riche au niveau émotionnel, je trouve, c'est ce qui en ressort, voilà. Et voilà, notre musique c'est essentiellement ça, c'est vraiment essayer de transmettre quelque chose, de transmettre des émotions. Moi, ça a toujours été, s'il n'y a pas d'émotion dans la musique, et c'est compliqué dans le métal, parce que c'est vrai qu'il pour beaucoup de styles on est plutôt dans le scream et c'est assez brut, et c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, voilà.
Ça a l'air de se faire très naturellement en même temps. Vous prenez pas la tête, vous amenez vos trucs et puis voilà, et ça se construit comme ça en fait. Donc c'est une belle rencontre en tout cas, messieurs. Et du coup, donc tu parlais des émotions au niveau des compositions et au niveau des textes. Comment ça se passe? Qui c'est qui amène les textes? Est-ce que vous en amenez plus ou moins? C'est toi au chant qui... D'accord. Alors expliquez-nous un peu la recette de Stonehearth.
Alors, une répète, ça se passe comme ça. C'est Nineka, il va poser une ligne de basse. Il va nous poser un riff. Il va tout de suite faire « Oh, Tom, reviens !» Et ils vont taper un truc ensemble. Donc, Nineka balance son « boum, boum, boum ». Tom commence à taper. Pépé arrive, il regarde Jérôme, ils se mettent l'un en face de l'autre. Et ils sortent un truc, ça va durer. On va faire tourner ça 6, 7, 8 minutes, toujours le même riff. Et là, il y a Jay qui dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé un refrain pour ça, ou un couplet, machin, enfin bref. » Et du coup, ils me disent « Allez, on pose et il nous faut un chant dessus. » Donc du coup, moi, j'arrive et je mets du yaourt là-dessus. Donc je dis n'importe quoi, n'importe comment. Et je rentre le soir et jusqu'à ce que j'ai la chanson, jusqu'à ce que j'ai le morceau et jusqu'à ce que j'ai les paroles entières, je bosse là-dessus. Et en général, ça nous met quoi ? Une journée, deux jours avant qu'on ponde les paroles et la répète d'après, on commence à les bosser. D'accord. Voilà, c'est ça.
Donc du coup, toi, quand tu écris un texte, tu t'imprègnes vraiment de la musique. Donc c'est ce côté émotionnel que tu fais ressortir. C'est-à-dire que tu t'imprègnes de la musique et tu écris un texte par rapport à ça. Est-ce que tu as des thèmes de prédilection ou tu pars selon l'instinct musical que tu reçois d'eux?
Alors, je suis beaucoup parti à l'instinct parce que... J'ai l'impression que la musique qu'on fait, du coup, me touche particulièrement et me guide vers un certain style pour dire ce que j'ai à dire. Et après, on a aussi une deuxième façon de procéder, c'est que avant donc qu'on pose les paroles, Nineka me dit ça serait cool qu'on parle aussi un peu de tel phénomène de société. Donc là je réfléchis déjà quand je pose le yaourt sur le chant, sur la partie chant, à chercher de quoi je pourrais parler. Donc du coup il y a du yaourt et il y a aussi des paroles en anglais qui arrivent et j'essaye de poser des choses avec des phrases. Alors c'est un peu dur quand même, mais ça marche comme ça. Et après c'est vrai que ça a été plus à l'instinct. Et c'est vraiment plus au niveau de la mélodie et de la dureté par moment des accords ou des sons posés à la batterie que j'ai écrit les paroles et que tout est ressorti comme ça. C'est beaucoup, on a composé beaucoup sur des tranches de vie que j'ai vécues personnellement aussi. Et après, sur des phénomènes de société comme la drogue, comme la politique un petit peu, on a fait une chanson un peu basée sur la politique. Alors on ne s'est pas étalé dessus, mais les grandes lignes de ce qui se passe aujourd'hui. Et après le reste, ouais, c'est vraiment des tranches de vie que j'ai vécues. Mais en même temps, voilà, c'est ce qui me rapproche le plus de moi-même pour poser du chant. Donc voilà. Mais on n'a jamais validé un chant sans en parler avant. C'est je pose le chant, je leur fais lire les paroles en anglais, en français. S'ils adhèrent, ça part. Sinon, ça part à la poubelle et on recommence. D'accord. Voilà.
Ok, très bien. Du coup, est-ce que vous avez une actu? Parce que là, vous n'avez pas de titre. D'ailleurs, on passera un titre live. Là, vous allez enregistrer ce soir et vous choisirez un des morceaux de ce soir. Mais du coup, est-ce que vous avez dans l'optique d'enregistrer un EP ou un album ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça, c'est en cours?
En fait, je crois que ils sont peut-être pas au courant, mais on espère bien faire le Hellfest sans avoir sorti rien du tout. Et je pense que...
Hein, j'appelle Ben.
Voilà, donc c'est un projet ambitieux, mais pourquoi pas, hein, avec les réseaux sociaux, on peut peut-être
Ben,
faire
moi
quelque
c'est
chose.
Fred Roussel sur Facebook.
Donc non, il y a effectivement un projet. Il y a un projet d'album, on va dire plutôt d'EP dans un premier temps. On va pas être gourmand. En fait, c'est à la fois par rapport au nombre de morceaux qu'on a. On en a suffisamment pour écrire un petit album. Mais dans un premier temps, ça serait plutôt partir sur un EP, deux titres, pour vraiment travailler la com dans un premier temps. Mais je crois qu'il nous faut surtout c'est un peu de temps pour le réaliser et c'est surtout ce qui nous manque aujourd'hui parce que bah là on n'a pas 15 piges donc on a des vies et forcément il faut trouver du temps voilà mais c'est dans les cartons c'est plus que dans les cartons on avait prévu sur juillet cet été de réaliser au moins deux titres si ça s'est pas fait ça devrait se faire à l'automne en sachant qu'on a des dates qui arrivent quasiment une par mois à partir de aujourd'hui et octobre, etc.
Ouais, justement, on en a parlé comme ça tout à l'heure. Vous avez vachement de dates qui tombent là comme ça. Alors vous êtes un groupe tout neuf. Ça vous surprend?
Alors oui et non. Oui et non. Alors oui sur le fait que on a fait notre première date, on l'a fait le 21 avril sur une soirée anniversaire qui aurait dû être une soirée anniversaire à la maison. Et vu le nombre de groupes qui ont répondu présents et le nombre de personnes qui ont répondu présentes pour cette soirée, on a été obligé de louer une salle et de se monter un fest. Donc un mini-fest, mais un fest quand même. Et on a fait notre première date là, sur cette soirée. Et après, c'est vrai que ça s'est enchaîné. On a pas posté de son. Par contre, on s'était enregistré un petit peu en répète, vite fait. On avait dit qu'il faut quand même alimenter un petit peu. Donc on avait mis une ou deux vidéos. Et on a été contacté par la salle Épendue qui est là aujourd'hui pour faire une date avec eux. On a été contacté par le Play Pop aussi au mois de mai, enfin pour faire une date au mois de mai avec Chicken Wings aussi. Et on a eu la chance de pouvoir s'enregistrer, de monter le teaser qu'on a sur Facebook par rapport à cette soirée-là. On a des dates parce que... je pense que notre musique a plu à certaines personnes. Je pense pas qu'elle plaira à tout le monde, mais en même temps, tous les goûts sont dans la nature. Et aussi parce que, à côté de ça, moi personnellement, j'ai une asso dont je suis président, 100% Underground. Et on commence à avoir beaucoup de contacts. Et on a été invité sur des événements aussi parce que, 100% Underground fait ci, fait ça, commence à monter. Et, on a voulu avoir le prez qui était là. Alors, peut-être des fois juste par amitié et peut-être aussi des fois pour un retour parce qu'il faut pas se leurrer hein. on répond à des invitations pour faire des partages de dates aussi donc toute date qu'on prendra avec Stoneheart sur lesquelles on me contactera moi en tant que président de 100% Underground on attend un minimum de retour et on fera les retours en conséquence et du coup voilà et on a cette chance d'avoir l'asso qui est là aussi pour booster le groupe mais on compte pas sur elle pour pouvoir vivre de la musique en fait ça va être un plus qui va nous permettre de faire quelques dates. D'ailleurs, on est en train de mettre en place des choses avec 100% Underground sur lesquelles Stoneheart ne sera pas invité, parce qu'on ne veut pas non plus assimiler Stoneheart à cette association, puisqu'on blacklisterait d'autres groupes et ils risqueraient de le prendre mal qu'on soit toujours présent sur ce qu'on fait. Donc ce n'est pas le but du tout. Et on continue de chercher par nos propres moyens des dates. Mais c'est vrai que l'asso a fait en sorte aussi que Stoneheart puisse avoir une, deux dates sur les six peut-être qu'on a programmé jusqu'à la fin de l'année depuis qu'on existe. Voilà.
Ok. Thomas, comment ça se passe? Toi, t'es le genou du groupe un peu. Je t'ai rodave.
Non, Pépé, il est jeune aussi. Tous jeunes à notre façon. Non, c'est tous. Non, pour moi, c'est tous des potes et j'ai pas d'a priori parce qu'ils sont vieux. Ou... Non, pas du tout. C'est vraiment des potes, autant que des potes qui sont plus jeunes ou peut-être encore plus vieux. J'en ai peut-être. Ou des potes de mon âge. Non, moi je le vis très bien d'être le plus jeune du groupe. Et c'est parfait, non, ça me fait plaisir. Peut-être, je sais pas. Vous en pensez quoi, tiens d'ailleurs?
Moi je suis pas le plus jeune, donc je passe au plus jeune.
Joker.
Ça me pose pas plus de problèmes que ça.
D'être vieux?
Non, tout ça pour dire que... Le métal, et on en a vu, on va en voir d'autres, des groupes réunis les générations, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même la classe. C'est quand même la classe parce que voilà, on voit pas ça de partout non plus. Et il y a des bons musiciens, jeunes, vieux, et voilà. Et ils font des groupes et ils font de la musique ensemble. Donc c'est cool. Messieurs, on arrive à la fin d'interview. Je vous laisse le mot de la fin. Chacun a son droit au mot de la fin. Chacun a droit à son mot de la fin. Et puis on va envoyer un de vos titres que vous choisirez. Et puis voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. On ne sait pas lequel il sera. Mais voilà. On va écouter tout ça. Merci Stoneheart.
Je t'interdis de faire une interview pendant qu'on joue. Je veux te voir dans la salle. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, c'est Fred.
Moi, j'espère qu'il y en aura d'autres des interviews. Donc au plaisir de se revoir, les gars. Moi, c'est Pépé.
Moi, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci.
Et moi, c'était Tom. Et ben, pas de truc sur le sexe. Pas de sexe, c'est ça que tu dis? D'accord, ok. Bon, bah, pas de sexe, alors. Voilà. We'll be right back.
Merci.
Mine Imperium est le quatrième groupe du Metal Fest Summer Rock deuxième édition. Ils font du death groove, mélodique, pardon. Ils sont lyonnais, encore des lyonnais en terre stéphanoise, ça, ça fait plaisir. Mine Imperium, c'est Nug à la guitare et au chant, Rob à la guitare, Carole à la basse, et normalement Julie à la batterie, mais elle est remplacée par Tom. C'est ça. Voilà. Exceptionnellement. Bah déjà, pourquoi Julie n'est pas là, du coup?
Alors, Julie attend un heureux événement. Et du coup, depuis le mois de mai, on l'a pas annoncé officiellement avant parce que on attend les périodes de grâce pour ça. Et donc, elle attend nos événements pour septembre et elle est pas disponible. Du coup, elle prend son congé parental jusqu'en janvier. Et donc, pendant ce temps-là, on joue avec Tom, qui est un excellent batteur et qui joue dans Aeon Patronist, entre autres, et dans d'autres groupes. Mais Aeon Patronist est un groupe un peu cher pour nous. Il faut m'enlever le micro de temps en temps, parce que sinon je m'arrête pas. Donc Tom joue dans Aeon Patronist aussi, c'est important pour nous parce qu'on est en train de préparer une tournée justement pour cet album qu'on va sortir. Et on part en tournée du 31 octobre au 10 novembre. Donc là on est en train de terminer tout ça, et donc on part avec Aeon Patronist justement. Et on joue, enfin on part sur les routes un peu, nous les deux groupes, et puis on traverse un peu la France et la Belgique, et probablement la Suisse si... voilà, pour jouer tous ensemble et puis avec des groupes locaux, d'autres groupes.
Du coup, votre album s'appelle Wet ou Carcosa. Il sort au mois de septembre, là. On est le 8. Il doit sortir fin septembre, non, c'est ça? Le 23 septembre. Ok, très bien. Du coup, là, vous avez dévoilé l'artwork. Là, c'était le background qu'on a vu. La pochette de l'album, c'est le background qu'on a vu. Et il n'est pas encore dévoilé, l'artwork de l'album.
Ce qu'on voit là, c'est un backdrop qu'on utilise depuis pas mal de, enfin presque un an maintenant, un peu plus d'un an, qui est plus un concept pour nous, en fait, qui permet d'illustrer un peu, et surtout on est assez fan du côté blanc, comme on voit avec nos yeux, que bon, les gens ne verront pas, n'entendront pas, mais on garde beaucoup de blanc sur scène. L'artwork par contre, de Way to Carcosa, ça n'a rien à voir en fait. C'est un artwork qui a été fait par un artiste qui s'appelle Bertrand Bouchardeau, qui a fait pas mal d'artwork pour des groupes plutôt stoner rock, un peu tout. Il fait aussi des bières, justement. On parlait de la Chartreuse avant, alors c'est pas de la bière, mais il fait pas mal. Ouais, il illustre. Il fait pas de la bière, mais en tout cas, il illustre des bouteilles de bière. Et dernièrement, il a fait toutes les affiches du Silac, là, justement. Donc voilà. Et c'est lui qui a fait. C'est un artwork qu'on a dévoilé. On a fait une campagne de financement participatif pour cet album. Et on a dévoilé la campagne, en fait, peut-être aux trois quarts, quelque chose comme ça de la campagne. Donc maintenant, il est disponible et on l'a mis un petit peu partout. Il est disponible sur Facebook, on le voit sur notre site. Et l'album sort effectivement, par contre, en version digitale et format box, quoi, le 23 septembre.
Je me permets juste de préciser que l'artwork, en fait, il a été créé pour illustrer le concept de l'album. Donc c'est bien pour ça qu'il est différent du backdrop qu'on utilise, c'est qu'il est là pour coller, enfin c'est une commande qu'on lui a passée et il colle vraiment au concept de l'album.
Du coup, on va en parler parce que voilà, vous parlez de concept, alors quels sont les thèmes abordés sur cet album et le concept, quoi? Et qui écrit du coup les textes?
Alors c'est moi qui écris les textes. Les musiques principalement de cet album-là ont été composées... Il y a des choses récentes, des choses un peu moins récentes qu'on a regroupées sur un album. J'ai beaucoup composé les musiques, mais on a beaucoup quand même travaillé tous ensemble pour toutes les musiques. Enfin, je veux dire, Rob a amené beaucoup d'idées sur les guitares, sur les solos. Je pense que tout le monde a participé, même. Enfin, Carole et moi, on est un peu les membres fondateurs de Mind Imperium puisqu'on était à l'origine du groupe. On a eu des changements de line-up. Et le line-up qu'on a actuellement, c'est justement ce line-up-là qui fait qu'on a un concept. On en discutait avec des gens qui nous ont vus sur scène aujourd'hui. C'est un peu plus, ça colle un peu plus, c'est un peu plus uniforme en fait. Ça part moins dans tous les sens, pardon. Tu parlais de groove, death, mélodique, etc. Je pense qu'on a enlevé le côté death et on s'est vraiment concentré sur du groove mélodique et c'est ce qu'on retrouve sur l'album en fait. C'est quelque part, ça colle avec ce qu'on aime bien, c'est-à-dire qu'on aime bien des groupes, on aime bien Gojira, on aime bien aussi du Machine Head, on aime bien Soul Work. Mais même en plus récent, moi je suis assez fan de groupes comme Architects. Des choses comme ça, enfin, Rob, il aime bien du Trivium, Carole, elle aime beaucoup le black metal. Julie aussi, d'ailleurs, mine de rien. Et donc, on mélange un peu ce côté-là en mettant un peu plus d'ambiance. Et c'est ce qu'on appelle un peu le côté mélodique du groove dedans. Enfin, je veux dire, du groove, Gojira, pour moi, fait du groove mélodique un petit peu aussi. Enfin, si c'est un bon exemple. Pas dans le même style, mais voilà. Et pour revenir sur l'album. L'album, il est, c'est 8 morceaux, qui traitent tous d'une manière ou d'une autre un peu du concept de la perte, en fait, de ce côté un peu douloureux et puis qui va générer pas mal d'émotions, je veux dire, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur, de la mélancolie, de l'angoisse, de la souffrance et de la douleur, je voulais dire, mais et tous ces thèmes-là sont abordés de façon différente dans les morceaux et sont regroupés en fait dans cet album-là. Donc c'est aussi pour nous le moyen d'avoir des morceaux peut-être plus doux, plus rudes, plus ambiantes, etc., en fonction du message de chaque morceau.
Du coup, vous avez signé avec une maison de disques et vous avez eu un partenariat pour enregistrer ou vous êtes en autoprod complètement ? Comment ça s'est passé ?
On est complètement en autoprod. En fait, aujourd'hui, par contre, on a regroupé plusieurs artistes avec nous sur un label qui s'appelle Dark Fairy Records, qui est un label qu'on gère nous, en fait, qui est une sorte un label associatif. On fait pas que de la... Enfin, nous, on sort l'album aujourd'hui sous ce label-là. Après, on a des partenariats de distribution, donc ça, c'est autre chose. C'est qu'on envoie après de la distrib un peu à droite à gauche. Par contre, on a ce label-là, il est vraiment fondé pour regrouper aussi les artistes, pour les aider. Nous, on utilise la distrib dessus et puis un peu la promo. On en profite, je fais un peu de promo pour Dark Fairy Records de passage parce que ce label-là va enregistrer des groupes aussi. Alors on n'est pas au niveau d'un studio, on n'est pas Joe Duplantier hein, pour aller à 900 euros par jour à New York. Par contre, on côtoie pas mal de groupes qui passent chez nous justement et c'est plutôt sympa, qui vont enregistrer des démos, des premiers EP, des premiers albums, des choses comme ça. On essaie plutôt d'être assez participatif et assez associatif pour développer la scène locale, c'est ce qui nous plaît. Et ce label sert à beaucoup de choses, dont à ça.
D'accord, ok. Est-ce que vous avez d'autres projets qui va découler de cet album ? Je pense à notamment un clip, ou est-ce que vous y pensez à ça, à mettre en image votre musique, vu que vous avez un concept poussé, réfléchi, vous avez intellectualisé votre musique, est-ce que ça vous intéresse d'aller vers la vidéo ? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus ?
Alors, on a sorti un premier extrait audio aujourd'hui, enfin un premier morceau en fait de l'album, qui est vraiment plus promotionnel qu'autre chose. Donc effectivement, il y a peu de... Ça conserve l'univers parce qu'on retrouve l'artwork, on conserve la dynamique. Par contre, on a réfléchi déjà à un clip, peut-être deux clips dans les mois à venir. On n'est pas forcément pressé. On a aussi la question de Julie, en fonction du clip qu'on voudrait faire. Est-ce que c'est un clip où on veut voir le groupe, pas voir le groupe ? C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. On a des réponses et on va mettre ça en œuvre dans les prochains mois. On a la tournée dont je parlais aussi, qui doit illustrer un petit peu cet album-là. Je pense qu'on va refaire aussi un peu de tout le visuel. On est très attaché au visuel. Enfin, on le voit hein, sur scène. On a un visuel. On n'est pas et ça découle sur le reste aussi. On a le site web qui va se remettre à jour, je pense, pour avoir cette image-là. Pas mal de choses. Est-ce que j'oublie des projets ? Je regarde mes. Si, on a quelque chose d'assez important qui, puisqu'on peut en parler, on est donc on joue sur scène aujourd'hui avec des samples comme beaucoup de groupes, mais ça c'est pour aussi accompagner un peu la musique qu'on fait. Là, on est en train de travailler quand même pour avoir un backdrop vidéo.
Et du coup, vous faites appel à... C'est vous qui faites vos projets vidéo ou vous faites appel à quelqu'un à qui vous dites, voilà, on aimerait ça pour que ça colle au titre.
Par exemple, pour des clips, on va plutôt s'adresser à des gens. On a des gens qu'on aime bien, en tout cas des gens qui travaillent bien. On a quelqu'un là qui... Non, mais il y a un gars sur entre Lyon et Saint-Étienne qui s'appelle Olivier Ramassami, qui a joué dans... Ouais, c'est un bon pote à nous et il fait de la vidéo depuis pas mal de temps maintenant. Il est excellent en vidéo et on va plutôt s'adresser à lui. Enfin, il est relativement au courant, puis on en avait parlé ensemble. On n'a pas officialisé la chose, mais on veut s'adresser à ce genre de personnes-là pour faire des clips. La question après du backdrop, c'est vraiment en fonction des morceaux. Est-ce que l'univers mérite vraiment d'aller voir quelqu'un parce que c'est vraiment suffisamment particulier pour que nos compétences... Enfin, moi, je travaille dans l'informatique, en gros, large, dans le digital. Donc il y a des choses qu'on peut faire nous en fait, hein. C'est pas... mais il y a des choses qui dépassent nos compétences et aussi c'est bien d'avoir des touchés extérieurs. Bah, par exemple Bertrand Bouchardeau sur la partie artwork, c'est génial d'avoir quelqu'un qui est un vrai artiste en fait et on lui dit bah voilà ce qu'on fait, on lui avait donné les morceaux en avance, il a écouté les morceaux, il a écouté l'album, il dit bah moi je vois comme ça et c'est une touche, enfin c'est une patte qu'on n'aura pas nous forcément parce que c'est quelqu'un de supplémentaire et nous on aime vraiment ça. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, ça va dépendre de chaque morceau. Okay.
J'aimerais savoir, cet album, individuellement, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Dans quoi vous avez progressé ? Qu'est-ce que vous avez pu exprimer personnellement dans cet album que vous vouliez toujours faire ou pas ? Enfin voilà, au sens large du terme, vraiment, est-ce que ça, en quoi ça vous a enrichi ? Musicalement et humainement ?
Alors, moi, pour cet album, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'effectivement, on avait renouvelé le line-up du groupe il y a 2 ans. Et donc, ça a été l'occasion. Bah, c'est exactement ce que disait Nog, c'est que de bien nous connaître et puis de faire évoluer les morceaux plus vers le concept justement qu'on avait, c'est-à-dire que on a pu approfondir le concept. Donc effectivement, ce qu'il disait aussi, chacun apportait sa touche. Il y a un morceau qu'on n'a pas joué du coup ce soir parce qu'on n'a pas eu le temps, qui a une fin voilà que j'adore, qui est très ambiant, qui est très black metal, qui voilà qui moi me parle beaucoup. Oui, on a des morceaux qui sont plus ambiantes, qui sont plus voilà qui moi me prennent voilà me prennent plus au trip que voilà que ce qu'on avait fait avant, qui était un peu plus technique, mais peut-être un petit peu plus plaqué sur un style. Donc voilà, ça c'est musicalement. Puis bon, humainement, ce que je disais, ça a été très agréable, les 15 jours de studio voilà, passés ensemble.
Donc pour ma part, moi j'étais pas là lors de l'enregistrement de l'album, mais en tout cas ce que ça m'a apporté de jouer avec mes collègues, c'est vraiment, je vais faire un peu redite, mais travailler le côté atmosphérique, je trouve qu'il est vraiment intéressant dans le métal, parce qu'on est tous habitué au stéréotype du truc qui bourrine, qui va vite et tout ça, ce que je fais aussi pas mal dans des groupes à côté. Mais du coup, là, ça permet d'avoir vraiment plusieurs facettes, plusieurs atmosphères au sein du même morceau, entre les morceaux, ce que je trouve vraiment intéressant. Et le côté aussi univers global de l'album, quoi, c'est-à-dire que il y a un concept derrière, les morceaux se suivent pas pour une raison précise, justement. Et il y a toute une cohérence que je trouve qui est intéressant c'est intéressant de s'y pencher dessus. Voilà.
Alors ce que ça m'a apporté musicalement, beaucoup de travail du coup. Et c'est quand même assez compliqué d'enregistrer comme ça des riffs. Il faut que ça soit parfait et tout ça. Donc c'est bien, je trouve, pour la progression musicale. Enfin pour moi, pour ma part, hein, je parle de moi. Ensuite, c'est un aboutissement. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis. Je fais de la musique depuis un petit moment aussi et j'ai eu plusieurs groupes. Mais du coup d'arriver avec eux en plus à faire ça, je suis vraiment content que ça sorte. Humainement, bah oui, comme a dit Carole, hein, c'était génial. on s'entend bien et ouais, c'est le fait d'avoir travaillé les morceaux aussi, de les avoir donné ce qu'ils sont maintenant. Je les ai connus avant aussi. Je trouve ça super cool qu'on ait apporté tous notre patte aussi pour donner ça. Je suis content. Donc le côté ambiant, tout ça, on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. Sur ça, et puis voilà, ouais. Je crois que j'ai fait le tour.
Merci, Patafouin.
Moi, sur l'aspect musical, alors c'est le premier album qu'on fait après l'EP. On a tous fait, effectivement, comme dit Rob, on avait d'autres groupes avant, on a tous enregistré ou pas des albums ou des EP. Celui-là, on a pris quand même beaucoup le temps, je trouve, musicalement. Peut-être pas autant de temps qu'on aurait voulu, parce que c'est toujours infini en fait de prendre le temps. On a travaillé en fait pour la musique, on a travaillé avec HK la Duva Macara studio, qui est un studio à Nantes, qui fait entre autres, dernièrement il a fait les Tambours du Bronx, il a fait un live de Dagobah, il fait 2-3 trucs qu'on aime bien. Bah il a fait Malkavian, qui est un peu important pour nous parce que Alex du coup a joué des batteries sur l'album. Alex est le batteur de Malkavian, il a fait des batteries aussi pour nous sur l'album justement quand Julie pouvait pas. Et donc il a fait tous ces groupes là et il a eu un petit rôle un petit peu de nous pousser aussi dans nos retranchements, de nous dire bon bah ça c'est chiant, ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est très bien, ça pourquoi tu le fais, pourquoi et puis on s'est posé les questions nous-mêmes aussi, c'est-à-dire qu'on a fait de l'autoprod à tous les niveaux comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que musicalement on a dû prendre du recul sur les morceaux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et pourquoi on fait ça et est-ce que ça parle, est-ce que ça parle pas. Et je trouve qu'on a vraiment progressé là-dessus, comme disait Carole, par rapport à l'EP où l'univers n'a rien à voir. Et je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, mais comme n'importe quel groupe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini, on se dira toujours que le prochain sera meilleur. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, généralement, parce que c'est le but. Après, personnellement, moi, ça m'a apporté beaucoup, parce que c'était dur, en fait. On a vraiment sué pour cet album. Et on a vraiment voulu aller jusqu'au bout, ensemble, faire quelque chose d'assez professionnel. Parce que, je veux dire, il n'y a pas de mystère. On fait ça comme beaucoup de groupes, comme tous les groupes qui sont ici, de près ou de loin. Et on a une passion qui nous anime là-dessus, d'avoir un niveau qui est quand même assez haut. Et on se donne tout ce qu'on peut pour le faire. Et on l'a fait pour cet album, je trouve. Enfin, comme disait Rob, il n'y a pas eu de pitié, quoi. Le riff va pas, tu le refais. On a vécu Nantes. On est parti à Nantes pendant 15 jours, donc tous les 3, 4, ça a varié. 15 jours ensemble, quand t'es sur le stress tout le temps, c'est un risque hein, pour un groupe. Enfin, je veux dire, on a vu combien de groupes se muter juste après un album. Nous, c'est le contraire que ça a fait, je pense. Enfin, je veux dire, on est beaucoup plus proche après l'album qu'avant, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous la même vision de ce qu'on voulait faire. Et donc, même si c'était dur, même si, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a eu des pleurs à un moment dans l'album. Il y a eu des hurlements. J'ai perdu ma voix un jour sur les. On avait donc c'est. Il y a eu pas mal de choses comme ça, mais on est arrivé au bout et on est super content. Et c'est un challenge. Enfin. Ultra satisfaisant et ça me fait extrêmement plaisir d'arriver jusqu'au bout.
Ok, et eh ben écoutez, en tout cas, ça donne. Moi, j'ai hâte d'être le 23 pour Tour Carcosa de Mad Imperium. Jetez-vous dessus, un univers. Et je tiens à dire qu'ils font donc l'interview avec des lentilles, c'est assez perturbant. Ils l'ont fait exprès en plus, ils nous ont dit au début. Donc voilà. Merci en tout cas à vous. Vous avez chacun droit à votre mot de la fin. Et puis, je vous laisse le soin de, on va balancer un titre, hein. On va écouter, alors, est-ce qu'on peut en voir en primeur, un titre du prochain album, comme vous voulez, Vous faites comme vous voulez.
Eh ben, merci beaucoup déjà de ce moment à passer avec nous. Ça nous permet un peu de nous exprimer sur notre concept, notre musique. On est bien contents. On est très contents aussi de vous avoir rencontrés. On va se reposer un petit peu après le concert qu'on vient de faire. C'était un bon moment aussi. C'est toujours bien de jouer avec le public, d'échanger un petit peu. Voilà, donc ça, c'est. On est bien contents. Et puis, on espère que ça plaira à tout le monde.
Eh bien, merci à la radio pour cette occasion de s'exprimer, parce que c'est pas très souvent que les groupes locaux peuvent s'exprimer justement en public sur les ondes, on va dire. Et je trouve que c'est vraiment une super initiative, donc longue vie à vous, et merci encore, c'est cool.
Eh ben, pareil, du coup, merci, c'est cool de pouvoir s'exprimer, ils viennent de le dire, on va dire tous la même chose, je pense, hein, mais du coup, ouais, c'est bien, c'est génial, et du coup, voilà.
Alors, moi, je suis pas content. Non, je trouve ça génial ce que vous faites. Merci beaucoup pour l'interview. Et je pense que il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que nous, on est de la génération radio, en fait. Et on est ultra fan. Enfin, je dis ça parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est ultra fan des interviews, des radios métal. Enfin, je veux dire, on a tous vécu avec Chapel of Ghouls. Et alors, pour la petite histoire, je sais pas si vous allez le laisser ou pas, mais Carole a fondé Chapel of Ghouls avec Jeff. Et voilà. Et donc, du coup, je trouve ça génial ce que vous faites. Donc, merci beaucoup. Bah pour le titre, je pense qu'on est plutôt partant pour mettre Cassil Death Lament.
23 septembre, ouais, tout Carcosa.
Voilà, c'est la fin de cette première partie du Metal Fest Summer Rock 2e édition. Je vais remercier l'asso Bloody Noise pour l'accueil. Notamment, merci à Léa et à Xavier et merci à tous leurs bénévoles. Suivez-les, ils organisent de belles choses. Et je vais remercier également, alors dans l'ordre, la salle des pendus, Scorncrows, Stoneheart et Mighty Imperium. Merci pour leur gentillesse et leur disponibilité. C'était très cool de vous rencontrer, messieurs, dames. Donc voilà, et on se retrouve pour la deuxième partie du Metal Fest Summer Rock. Restez à l'écoute, ça va envoyer toujours du lourd. Allez, ciao, bonne soirée.